One, two, three, ho!
Bon, Eric, j'ai rien contre toi, mais sincèrement, c'est pas avec toi que je voulais passer la Saint-Vélotin.
Tu voulais passer ça avec qui?
Mais avec mon vélo.
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Et c'est la Saint-Vélotin, c'est la troisième année qu'on fête cet événement, le jour où les cyclistes déclarent leur amour à leur vélo. Et aujourd'hui, on est avec Arnaud. Comment ça va Arnaud ?
Eh, ça va bien et toi ?
Impeccable, moi j'adore fêter la Saint-Vélotin, entendre les autres qui parlent de leur vélo avec amour, moi ça me réjouit, ça me donne envie d'en faire encore plus que j'en fais et ça me motive à continuer l'émission.
Bon, moi c'est ma première Saint-Vélotin avec mon tandem.
C'est pas vrai.
Mais oui.
Tu vous faites ça à trois ? Eh ben bravo.
Exactement.
À part de ça, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Eh ben tu vois, à la Saint-Vélotin, qu'est-ce qu'on aime faire avec notre amoureux, notre amoureuse, notre vélo qu'on aime fort?
Bah se promener avec lui, voyager,
voilà.
Aller au loin.
Et quel est le meilleur moyen que de voyager avec quelqu'un que l'on aime?
Eh ben de l'emmener en train.
Exactement, donc on va parler vélo et train.
Ah ben ça c'est intéressant, le vélo-train à la Saint-Vélotin, bien joué, bien joué.
Oh, à la Saint-Vélotin.
On va avoir aussi pas mal de choses, on va avoir Deluxe qui sera là, on aura Florian qui a fait un interview d'un facteur qui livre des lettres d'amour, et puis surtout, vous allez apprendre qui était Vélotin, qui se cache derrière Saint-Vélotin, on a son histoire, on a retracé son histoire. Et puis tout de suite, une voix que vous allez très peu entendre, et pourtant heureusement qu'elle est là, c'est Émilie, qui fait partie de l'équipe de Pause Vélo, mais qui est community manageuse. Je féminise le mot, même si c'est de l'anglais. Et Émilie, elle a décidé d'éclairer aussi son amour à son vélo.
Oh mon vélo, mon cher vélo. Ça fait plus d'1 an que tu m'accompagnes. Et chaque moment passé sur ta selle est un plaisir immense. Tu es mon premier vrai vélo, celui que j'ai pris du temps pour choisir. Plusieurs mois d'ailleurs. J'ai demandé conseil à un vélociste et il m'a dirigé vers toi. Et ce fut le coup de foudre. Tu m'as tapé dans l'œil, mon croix de fer. Je ne connaissais pas grand-chose de toi. Mais il y avait un je ne sais quoi qui m'appelait. Peut-être ton loup grassé avec ton cintre route, moi qui ne connaissais que les cintres droits. Tu semblais être fait pour filer dans le vent. Je cherchais la polyvalence, un vélo pour aller chercher le pain. Faire mes courses, travailler, rouler à vive allure sur tous les chemins qui m'inspiraient. Je cherchais la robustesse, un vélo que j'allais garder toute une vie. Le vélociste m'a dit, le croix de fer est celui qu'il vous faut. Et te voici, tu es bel et bien celui qu'il me fallait. Je te dois tant, cher vélo. Tu m'as initié aux longues sorties par tout temps, en toute saison. Tu m'as initié au gravel, tu m'as initié aux porte-bagages. D'ailleurs, c'est dingue tout ce qu'on peut s'y mettre. Tu n'as jamais bronché. Tu m'as toujours emmené à bon port, là où je le voulais. C'est pourquoi je te dédie cette lettre, à toi mon vélo, mon ami, que j'espère bien garder toute ma vie.
C'était la lettre d'amour d'Émilie. Émilie qui nous a rejoint suite à un appel qu'on a lancé, parce qu'on a besoin de monde pour construire l'émission. Et on a toujours besoin de bénévoles, si vous voulez nous filer un coup de main. Peu importe où vous êtes, en France, en Suisse, en Belgique, il n'y a pas besoin d'être forcément sur place. Bah, si vous êtes sur place avec nous, c'est encore mieux. Mais vous pouvez être à distance. On a toujours besoin de monde, si vous avez des idées ou si vous n'en avez pas. Nous, on en a pour vous. Et vous n'êtes même pas obligé de participer à toutes les émissions si vous avez... quelques heures, demi-heure par mois à nous consacrer, c'est que du bonheur. Alors on va parler maintenant vélo et train pour la Saint-Vélotin.
Et oui, puisqu'il y avait une action, mon vélo dans le train, je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Si, on en avait parlé l'année passée. C'était un collectif qui voulait faire passer une loi pour avoir 8 vélos dans les trains.
Ils ont eu gain de cause, dis-moi pas que c'est pas vrai.
Mais oui. Ils y sont arrivés. À partir du mois de mars 2021, il y aura un minimum de 8 emplacements pour vélo obligatoires. Alors attention, parce que là, voilà, comme on est en France, hein, y a toujours des exceptions, d'accord ? Les trains dont l'achat ou la rénovation sera engagée à partir de mars 2021 devront inclure 8 emplacements pour les vélos.
Ah, donc à partir du mois de mars, là, ça va commencer, on va commencer à avoir les premiers trains
alors,
rénovés.
Les trains qui seront rénovés à partir du mois de mars... devront obligatoirement inclure 8 emplacements. Les trains qui seront achetés à partir du mois de mars devront aussi inclure 8 emplacements. C'est-à-dire tout le matériel roulant actuellement,
ouais.
S'il n'est pas rénové, il n'y aura pas d'emplacement pour les vélos.
D'accord,
enfin,
ok,
pas
ouais, normal.
Plus en
ouais,
tout cas
normal.
Que ce qu'il y avait actuellement.
Oui, parce voilà. que c'est, ça coûte quand même vachement cher hein, de faire tout ça. Donc oui, c'est normal qu'on ça
on
change
est
pas tout de suite. Quoi.
On est d'accord. Alors, il faut savoir qu'en Île-de-France, il pourrait y avoir certaines exceptions régionales pour tenir compte des situations locales. Donc en Île-de-France, ce serait plutôt autour de 4 vélos.
Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de monde au mètre cube dans les trains. Ouais, je dis au mètre cube parce que on s'étale, c'est pas juste la surface.
C'est ça. Tout le matériel neuf à partir de 2021... Sauf, là encore, exception, les TGV.
Ouais.
Et notamment le TGV du futur, qu'ils ont appelé le TGV-M, que la SNCF doit lancer en 2024. Lui non plus n'inclura pas 8 emplacements pour les vélos.
Ah, une fois, j'ai réussi à mettre mon vélo, parce qu'on partait en vacances à vélo dans un TGV, mais je peux te dire que c'était la croix et la galère. Fallait réserver avant et tout,
ils sont
hyper
pas,
complexe.
Ils sont pas bike-friendly.
Non, non, pas du tout. Par contre, tu vois, je me souviens qu'encore au début des années 2000, il y avait, dans les vieilles Michelin, les vieux trains, t'avais un fourgon. Ou alors là, c'était hyper facile de mettre son vélo. Enfin, fallait l'aide du contrôleur parce qu'il était en hauteur. Donc, ouais. C'est une partie du train où on mettait plutôt les colis, etc. Mais au moins, c'était facile de mettre son vélo, puis t'étais sûr d'avoir de la place, quoi.
Mais je me souviens de ça aussi quand j'étais adolescent, ouais.
Ouais, ouais, il y avait ça. Bon, bah, ça a changé, quoi. Mais bon, bonne nouvelle.
Ça revient.
Ouais, ça, c'est cool.
Et il y a aussi autre chose qui devrait bientôt revenir, probablement, concernant les trains, ce sont les trains de nuit.
Oui, alors ça, c'est du bonheur aussi. Alors, pas sûr qu'on puisse mettre les vélos non plus quand on fait du train de nuit, mais...
On verra.
Voilà. Moi, je suis super content qu'il y ait des choses qui aillent dans le bon sens. Maintenant, faut qu'on les prenne, ces trains-là. C'est ça, le truc.
Alors, moi, s'il y a des trains de nuit pour traverser l'Europe, c'est juste génial.
Bah, moi, pour faire Suisse-Normandie, hein, je l'ai fait 2-3 fois en partant... Bon, bah, ça s'arrête à Paris. Mais c'est quand même hyper agréable de dormir dans le train. Tu rentres dans le train à 23h, tu t'endors là-dedans, tu te réveilles à 7h du matin à Paris, t'es reposé, que du bonheur. T'as gagné ta journée, quoi. T'as pas vu le transport passer. Alors, on va partir maintenant avec Deluxe. Et il est très remonté, comme d'habitude, remarque.
Ciao ragazzi, c'est Deluxe pour une chronique sur le vélo et l'amour. Je comprends toujours pas le patron. Ah là là, déjà qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques et que j'aime pas faire du vélo, il va quand même demander à un mec qui a divorcé il y a moins d'un an de vous parler d'amour. C'est pas ce qui lui passe par la tête. Totalement incohérent le patron. Bon, je pense qu'on a les patrons qu'on mérite, hein. J'ai toujours dit que les écolos avaient le cerveau en friche. Vous savez, la friche qui désigne tout terrain ayant été utilisé ou développé précédemment, mais qui n'est plus occupé à l'heure actuelle. Bah, je vous laisse un peu tirer vos propres conclusions. Ah, sinon, quoi de mieux que le tandem pour visualiser l'amour à vélo, ou le vélo et l'amour, hein ? Je sais, elle est facile, mais quand même, les gars, le tandem ! Cette espèce de bicycle horrible où le premier pédale est conduit en se traînant un boulet derrière lui, et où le second pédale, mais avec les fesses du premier en pleine face. C'est pas une belle métaphore, ça ? Ah, je savais que l'amour rendait aveugle. À mon avis, ils rendent surtout très cons. Bah oui, en cette époque où... tout n'est que sentiment, on nous loue, on nous vante tellement les bienfaits de la dualité, le vivre ensemble, le faire ensemble, qu'on ne pense qu'autant d'aime. Mais qui conduit ? Qui dirige ? Hein ? Qui ? Et dès que l'un s'arrête de pédaler, que fait l'autre ? Il pédale pour deux ou arrête aussi de pédaler ? S'en suit forcément un dialogue de sourds. Bah, pourquoi tu pédales plus ? Bah, parce que tu pédales plus. Bah, moi je pédale plus parce que tu pédales plus. Bah, quand on a qu'à se remettre à pédaler alors ? Ah bah non. Toi d'abord, tu dois montrer que t'as envie de pédaler. Ah bah non, bah c'est toi qui pédales plus. Mais tu te moques de moi ? Non. Si, excuse-toi. Ah bah non, toi d'abord. Ah bah non, bah moi je m'excuse pas parce que toi tu t'excuses pas. Ah bah moi pareil. Vous voyez, franchement, à quoi ça sert l'amour à vélo si c'est pour raconter et faire les mêmes conneries que dans la vie de tous les jours ?
Alors demain, on fête la Saint-Vélotin, m'a dit le patron.
Non mais les gars, déjà que c'est la Saint-Valentin est proprement ridicule, on va inventer une contraction lexicale pour faire semblant d'échouer, c'est juste écœurant. Et puis franchement, les balades amoureuses, à deux, en vélo, ça vous semble cool ? Bah non, c'est pas cool, mesdames. Parce que vos mecs, désormais, ils savent plus rien faire de leurs mains. Alors vous imaginez changer une chambre à air ? Mais que dalle ! En revanche, le selfie en haut de la montagne, à peine gravi, en vélo électrique, ça on sait faire. Oui, je sais. J'entends déjà toutes mes femmes féministes hurler qu'elles n'ont besoin de personne pour changer leur chambre à air, d'accord ? Ok, vous avez raison. Continuons à dire qu'on a besoin de personne à part pour s'aimer, et vous verrez que la notion d'amour même va enfin se révéler pour ce qu'elle est. Un mythe. En fait, c'est Alice Coffin qui a raison. En substance, elle a dit « Il faut virer tous les hommes ». Je sais, je simplifie, je suis peut-être un peu de mauvaise foi, mais elle l'a dit. Et elle a dit qu'elle s'attendait pas à autant de violence contre elle. Sans blague. En sortant de telles inepties, tu t'attendais à quoi, Alice ? à ce que on te dépose des chocolats devant la porte ? Forcément, du coup, malheureusement pour toi, tu as la lie de l'humanité qui se déchaîne contre toi. Alors aucune violence n'est justifiée, Alice. Mais la haine déchaîne la haine. Écoute-moi pour une fois, Alice. Écoute un homme. Vous me direz, quel lien entre le vélo, l'amour et cette déferlante de haine de tous côtés ? Aucun. J'avais juste envie d'en parler, ça défoule et ça fait vachement du bien. En fait, si. Il y a un lien. J'aime pas le vélo. Je suis divorcé. Et je suis célibataire. Alors l'amour, ça résonne en moi autant que la définition d'une droite en mathématiques pour un électeur de Trump du fin fond de l'Arkansas. Alors attention, phrase faite de préjugés. Je ne suis jamais allé en Arkansas et je déteste Trump parce que tout le monde, ou presque, le déteste. Il y a un lien. Qu'on le veuille ou pas, je vais forcément avoir un brin de frustration à l'idée que personne à moi ne me dise « je t'aime » à la Saint-Vélotin. Bon, en même temps, si ma compagne devait être habillée en cycliste de route, genre Mulburn... Oui, pour une femme, c'est étrange de dire moule burn, mais je cultive mon côté dégenré. Et surtout, moule camelto, ça le fait beaucoup moins. Bah, je préfère encore manger un paquet entier de chips cacahuètes devant la rediffusion du film Le Cœur des Hommes. Alors voilà, on demande à un frustré de l'amour qui n'aime pas le vélo de faire une chronique sur le vélo et l'amour. Ça déclenche forcément de la haine et des tirades idiotes qui ne sont potentiellement pas drôles. Sauf que moi, dès le départ, les gars, je tente de faire de l'humour. Il n'y arrive peut-être pas. Mais je me drape de satire, contrairement aux pseudo-essayistes susmentionnés. En fait, les amis, virez les gens, virez le vélo, virez tout, virez le reste, gardez l'amour. Quelle que soit sa forme, le respect, l'amitié, la bienveillance, l'éducation, la tape virile sur les fesses entre mecs. Oh là 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 là. À vous qui me direz comment vivre, ou comment rouler, au sens figuré comme au sens propre, ben je vous dis merde, mais je vous aime. Restez bon de cœur, mais libre d'esprit. C'était Deluxe.
Eh ben merci à Deluxe de nous rappeler que sans haine, il n'y aurait pas d'amour.
Mais je pense qu'au bout d'un moment, à force de rester dans l'émission, il va se mettre à aimer le vélo. De gré ou de force, je pense qu'à un moment donné, il va comprendre.
Il va changer.
J'espère.
Et puis, maintenant, dis-moi, Eric, parce que Saint-Vélotin, ça fait 3 ans qu'on en parle, ça fait 3 ans qu'on déclare notre amour à nos vélos. Mais c'était qui, Vélotin ?
Eh ben, j'ai fait des recherches sur Wiki Truc, et j'ai trouvé qui était Saint-Vélotin. Alors, Saint Vélotin, le saint patron des amoureux de la bicyclette, il est né quelque part en Europe du Nord, mais on ne sait pas trop où exactement. C'était le 14 février 1817. Alors, dans une famille pauvre, un père charpentier, une mère bergère.
Et vierge.
Probablement. Alors, c'est ce qui est mis hein, sur Wiki Machin. Probablement. C'est sur le tard, en fait, qu'il découvre son amour immodéré pour la bicyclette. Il est vélo-taffeur. Et il prend chaque jour de plus en plus conscience du pouvoir du vélo pour rendre le monde meilleur. Et c'est ainsi qu'il décide de partir parcourir l'Europe pour aller prêcher la sainte parole vélocipédique, devenant ainsi le premier cyclo-voyageur de l'histoire. Il est d'abord moqué, puis petit à petit rallié par de nombreux disciples. Des disciples à qui il disait toujours en terminant ses prêches « Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, pour sauver l'humanité, faites du vélo. » C'est lui qui a fait ça. Et nous, on l'a repris dans Pause Vélo.
Et on lui rend hommage à chaque fin d'émission.
Exactement, on ne le savait même pas. Il a eu de nombreux disciples. Eux ont aussi, ensuite, parcouru le monde, quand Saint Vélotin nous a quittés. Et ses disciples ont essaimé à travers toute l'Europe, notamment en Belgique, où un de ses disciples a créé le GRAC. Et puis en 1980, un disciple en France a créé la FUB. Et puis en 1985, un autre disciple de Vélotin a fondé Pro Vélo.
Donc ce sont des sectes en fait dédiées à Saint Vélotin.
Voilà, ce sont des disciples de Saint Vélotin qui ont créé leur confrérie. Et puis un fait étonnant sur Saint Vélotin, c'est que des chevilles jusqu'à la moitié des cuisses, il était totalement glabre. Pas de poils aux pattes. Incroyable. Et alors, la légende dit que c'est en l'honneur de Saint Vélotin que les cyclistes du Tour de France, les coureurs professionnels, les sportifs, se rasent les poils des pattes. On a enfin l'explication.
C'est incroyable.
Incroyable. Voilà, on ne savait pas qu'ils avaient autant d'amour pour Saint Vélotin, les cyclistes professionnels. Le vélo, c'est la santé. Donc, c'est un autre fait marquant sur Saint Vélotin. Le vélo, c'est la santé. Et puis, on sait que le vélo, en même temps, c'est quelque chose où il n'y a pas d'obsolescence programmée. Ça vit très longtemps. Ça, c'est un objet qu'on a toute une vie, voire plus. Et Saint Vélotin, avant qu'il devienne saint, il a acquis tous les attributs de sa monture. Il a vécu très, très longtemps. On dit qu'il aurait vécu à peu près 150 ans. On a ses dates de naissance et de mort, mais on n'est pas encore sûr. Mais En tout cas, c'est presque avéré, il aurait vécu autour de 150 ans. Donc le vélo, ça conserve. Vraiment, le vélo, c'est la santé. Et Saint Vélotin le savait. D'ailleurs, on représente souvent Saint Vélotin à l'image des centaures, tu sais, mi-homme, mi-cheval. Oui. Eh bien, Saint Vélotin, lui, était mi-homme, mi-bicyclette.
Wow.
Incroyable, vraiment incroyable. Je m'arrête là pour cette histoire de Saint Vélotin. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Comment il est devenu saint, comment il nous a quittés, comment Vélotin a quitté ce monde. Tout de suite, c'est Florian qui a interviewé un facteur qui livre des lettres d'amour. C'est très touchant.
Vincent Berthelot, vous habitez en Bretagne. Vous avez épousé à la retraite un nouveau métier, un métier aimable et amateur, que vous avez baptisé le facteur humain, que vous livrez, suivant votre formule, des courriers importants, mais pas urgents. Quelle est donc cette drôle d'idée? Comment ça vous a pris?
Les seules choses qui sont vraiment intéressantes, c'est le chemin plus que la destination. Je décide que je ne décide pas d'une destination. Voilà, je commence comme ça. Je décide d'initier mon voyage sur cette base-là, qui tout de suite pose un problème parce que, quand on ne sait pas où aller, on ne sait pas où partir et qu'on veut partir en voyage, il faut quand même qu'on trouve une solution. Il ne me restait que la solution suivante, c'est que les autres me disent où aller. J'ai proposé aux gens, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un d'important, de pas urgent parce que j'y vais en vélo, eh bien, tu l'écris et moi, je porte le message. Et c'est ça qui a dessiné la route.
Et alors, en préparant cette interview, je vous ai demandé, puisque c'est la Saint-Vélotin, si vous avez livré déjà des lettres d'amour. Et puis, vous m'avez répondu, en fait, ce ne sont que des lettres d'amour.
Oui, oui, que des lettres. Enfin, j'en vois pas de facture. Mais non, en fait, les histoires d'amour que j'ai portées sont des histoires d'amour au sens le plus large, plutôt au sens d'agapé que d'éros. J'ai pu peut-être porter des lettres d'amour dont je ne connaissais pas... exactement la teneur. Voilà. Mais il est arrivé qu'on me les lise, mais j'avais pas toujours le détail des courriers. Enfin, j'ai au moins deux histoires, deux fois où je pense qu'on était bien plutôt du côté d'Eros que d'Agapé. Une fois, c'est mon deuxième courrier et que j'ai déposé dans un magasin. J'étais pas très doué encore. Je savais pas faire le métier. J'étais en apprentissage. Et c'est vrai que je suis un peu déguisé. J'arrive avec mon vélo bizarre. Et j'arrive dans ce magasin et la personne sait pas trop quoi faire de moi. Et moi, je sais pas très bien comment me présenter. Et elle me demande qui envoie ce message, et comme sur le message, c'est pas marqué, je laisse le doute planer. La dame, elle prend le message, elle le pose sur la banque du commerce, là, et puis se barre. Elle me laisse en plan. Pas le temps de discuter, et puis, je repars, quoi, moi, je sais pas quoi faire. Enfin, j'essaie d'insister, elle me dit, grosso modo, je l'ouvrirai ce soir, je sais pas que ça. Enfin, elle m'est conduit. Bon, je repars, et je me dis, faut encore que j'apprenne le boulot, hein, parce que... C'est un peu limité en relation. Et je découvre a posteriori, puisque j'ai revu la personne qui a apporté le courrier, qu'en fait, cette dame a ouvert son courrier une fois que sa journée de travail a été terminée. Et j'ai su qu'elle avait pleuré beaucoup, que les personnes se sont retrouvées, que ça a été des bons moments. Il y a eu une deuxième fois, j'avais invité les gens, le cas échéant, à me donner des courriers, y compris pour des amoureuses déconduites, ou j'en sais rien, des choses comme ça, quoi, des histoires qui, non pas qui finissent mal, c'est pas le souci, mais voilà, fini peut-être, ou pas engagé. Et puis quelqu'un un jour m'a proposé de porter un courrier à une de ses anciennes relations qui avait mis fin à la relation, et puis 10 ans après, elle dit, mais je vais te donner une lettre et tu, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce qu'apparemment, voilà, ça s'était pas trop bien expliqué. Et donc, j'ai porté cette lettre d'une amoureuse éconduite. Et c'était assez, assez drôle parce que je suis arrivé dans cette maison, un nouveau couple était formé. Et je suis arrivé dans cette histoire. Quand j'ai dit qui me donnait la lettre, j'ai senti l'ange passer. Mais bon, après, j'ai été super bien accueilli dans un magnifique jardin et puis invité à manger, enfin, d'une belle rencontre. Mais pendant l'histoire, la lettre a disparu. Et elle a disparu parce que celui qui la recevait l'a sans doute fait disparaître. Mais prétextant son grand âge, il lui a donné le statut des clés ou de la casquette qu'on égare et qu'on ne sait pas où on l'a mise quand on est un peu âgé, quoi, quelque chose comme ça. C'était franchement très drôle.
Alors, l'an dernier, vous avez créé une agence des facteurs humains. Ouais. Donc tout le monde peut faire comme vous pour voyager, aller porter des courriers à droite à gauche en France ou en Suisse ou plus loin. Vous écrivez sur le site internet de l'agence des facteurs humains que c'est un projet poétique.
J'avais un peu de mal quand même à dire qui m'avait mobilisé au départ. Et puis, j'ai trouvé que finalement, c'était de la poésie. C'était de la poésie parce qu'il y avait un espèce de décalage avec la réalité. Et pourtant, ça renvoie bien à nos réalités qu'on vit aujourd'hui. Mais ce petit décalage crée quelque chose que je voyais pas comment appeler autrement que comme ça. Donc, actuellement, je crois qu'on est 36 ou 37 facteurs dans l'agence. Et donc, c'est une manière de voyager qui permet d'aller dans des endroits improbables que personne n'aura jamais prescrit et sur lesquels personne n'aura jamais fait de commerce. Mais par contre, où on est garanti d'être en prise avec la vie, la vie réelle des personnes.
Votre démarche a tapé dans l'œil du chanteur-poète Sanseverino, qui écrit une chanson en pensant à vous. Le facteur pirate. Pour faire partie de l'agence des facteurs humains, il y a le site l'agence des facteurs humains, tout attaché, .blogspot.com. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite encore de porter beaucoup de courriers.
Merci beaucoup.
Et tu vois, même après sa mort, Saint Vélotin continue à nous faire propager l'amour autour de nous.
Ah ouais, un facteur qui était lui aussi adepte de Saint Vélotin.
Oui, continue ton histoire.
Suite et fin. Sur le tard de sa vie, dans la deuxième moitié du XXe siècle...
Donc à partir de 75 ans ?
Ouais...
S'il a vécu 150 ans ?
Voilà, il est plutôt... c'est la deuxième moitié du XXe siècle, donc tu vois, il est plutôt autour d'un peu plus de 100 ans, tu vois, il commence déjà à être âgé. Eh bien, les villes changent en Europe. Et Saint-Vélotin s'oppose fermement avec ses disciples, il est avec ses disciples, et il lutte contre les hordes fumantes et motorisées du roi barbare, Pétrolosaure Ier.
Oh.
Oui, Pétrolosaure Ier de son vrai nom, Otto von Pétrolosaure. Otto, lentement mais sûrement, envahit les villes et les campagnes, causant discorde, malheur et réchauffement climatique.
Bien sûr.
Alors, après avoir vaillamment lutté, Saint-Vélotin s'éteint. Il est devant sa télé. On est le 22 décembre 1967. Et il voit à la télé qui est inaugurée la voie Georges Pompidou à Paris. C'est une autoroute sur ce qui était avant les quais de Seine. Et quand il voit une autoroute le long de la Seine qui défigure la plus belle ville du monde,
bien sûr.
Saint-Vélotin, il a une attaque, une crise cardiaque. Il s'éteint sur son lit de mort comme ça. Et en repensant à la victoire de Pétrolosaure finalement, il a ses derniers mots. Il dit « Pourquoi tant de haine ?» Et il s'éteint comme ça. Saint-Vélotin est rapidement canonisé.
Oui, ça s'est passé comment ?
Alors, en 1979, c'est le pape Jean-Paul II qui canonise Saint-Vélotin et il le fait saint patron des amoureux de la bicyclette. On fête Saint-Vélotin le 14 février, donc jour de sa naissance. Amen.
Merci beaucoup. Alors, moi, je vais te lire. J'ai lu aussi un livre de Saint-Vélotin. Ce sont ses confessions intimes, en fait. Donc, c'est très personnel, n'est-ce pas ? Et il nous disait que, tout nu, il était bronzé seulement jusqu'au haut des cuisses et de l'avant-bras jusqu'au milieu du bras.
D'où le bronzage cycliste ? Ça vient de Saint-Vélotin aussi ?
Je pense que ça vient de là, alors, oui. C'est en hommage à lui aussi.
Incroyable. Alors, vraiment, vraiment, Saint-Vélotin, une personne extraordinaire.
Formidable.
Arnaud, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un agaletti ? Agaletti.
Est-ce que ça se mange ?
Eh ben, pas loin.
Ah.
En fait, les agaletti, c'est dans la ville du Caire. C'est des livreurs de pain à vélo. Ils sont avec leur vélo et ils ont une énorme planche au-dessus de la tête avec 60 kilos de galettes de pain.
Wow.
C'est le moyen de transport le plus facile pour transiter entre les embouteillages infernaux qu'il y a là-bas au Caire. Et avec leurs 60 kilos de galettes sur la tête, eh ben, ils circulent entre les automobiles pour livrer le pain. Et c'est la chronique du Yak. Claude Martalière nous parle d'un de ses copains à Galetti.
Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à écouter l'histoire d'Amada, qui est un cycliste du quotidien dans la ville du Caire. Une ville qui est une ville monde immense de plus de 20 millions d'habitants. Les 600 galettes de pain baladi, 45 kilos, qui l'attendent sont disposées élégamment sur l'avion, le mot choisi dans la profession, pour évoquer la sorte d'échelle, longue de plus de 2 mètres et couverte de cages, détrayée en bois de palme. Le taillard, le pilote, Amada, ceint un turban autour de son crâne dont le sommet fait apparaître au grand jour un trou béant dans sa chevelure noire. Un cratère indélébile qui certifie à lui seul ses 14 ans d'expérience de livreur de pain. Un boulanger l'aide à placer l'avion sur sa tête. Puis d'une main, Amada pousse sa lourde bicyclette indienne hors de ce tavre de paix et de l'autre saisit son zinc. Prêt au décollage, il s'élance alors sur le chemin de terre battue de son quartier populaire, tout en basculant sa jambe droite par-dessus la double barre de son vélo, un pacha, Le voilà virevoltant dans le bouillonnement de la bien nommée mère du monde, une fourmilière de 20 millions d'habitants, éruptive et suffocante. À 29 ans, Amada est un véritable virtuose. Il joue de sa bicyclette comme d'un instrument de musique, défiant à chaque tour de roue les lois de l'équilibre et de la circulation. Sa frêle silhouette de derviche tourneur de pédale zigzague sans répit, lui assurant au millimètre près une enfilade inopinée dans le moindre interstice. Juste derrière, me voilà pris dans le pétrin entre le crachat noir d'un bus antédiluvien et un taxi. Avec une maîtrise phénoménale, ce contorsionniste ajuste sans cesse le haut de son corps, enfonçant tour à tour ses épaules dans l'air vicié pour garantir le vol parfaitement horizontal à son avion qui survole en maître le trafic chaotique. Au-dessus de la mêlée, Amada s'appuie d'une main sur un capot où actionne l'une de ses poignées de frein qui entraîne un système de quatre sonnettes, car à chaque seconde surgit de nulle part un piéton, un marchand ambulant de patates douces, le ramasseur d'ordures, un vendeur de légumes ou un chauffeur fou de microbus. Il parle, crie, siffle, fait signe à un chauffeur distrait. Sa tâche est pharaonique, sa bravoure et sa prouesse quotidienne. « Yes, I can do that », proclament les mots incompréhensibles à ses yeux, inscrits sur son t-shirt. Si vous en doutez encore, il vous apportera même un verre de thé fumant au bout de son avion. Au langage des signes, les automobilistes carottes se montrent toujours fair-play et jamais énervés par les rétroviseurs que les livreurs de pain embrochent fréquemment de leur guidon pour se frayer de justesse un passage trop étroit pour une moto. Les agaletti, comme on les appelle, remontent n'importe quelle rue à contresens, par la droite ou par la gauche, sans que personne d'ailleurs ne s'y oppose, pas même la police. Toutefois, ils sont complètement exposés. À la moindre inattention, ils risquent une chute au péril de leur vie. Amada est un pro. S'il pressent une collision inéluctable, il jette son avion pour épargner sa nuque. Les livreurs de pain partagent un code de solidarité informel. Si l'un d'eux vient à tomber malade ou est percuté, un autre le remplace au pied levé. Dans de telles situations, les badauds s'activent spontanément à ramasser les galettes et à les restituer aux cyclistes. Le pain sera livré croustillant, aujourd'hui encore, à un stand ambulant de falafel ou à un restaurant dans un rayon de 5 km. Bien que l'Égypte soit un pays de mangeurs de pain, l'association de l'usage du vélo marginalise les agaletti. Paradoxalement, s'ils constituent aux yeux des Cairotes un élément constitutif du paysage urbain, leur omniprésence sur la voie publique les banalise. Comme tous les autres livreurs, Amadé est illettré et est venu à la ville car ici, il gagne l'équivalent de 7 à 9 euros par jour, soit le double des revenus d'un paysan à la campagne. Depuis la Révolution, la figure emblématique du livreur de pain a tout de même connu une gloire éphémère sur les murs du Caire. Du graffiti d'Agaletti, du célèbre artiste Ganzir, il ne reste hélas aujourd'hui que le tank, tout un symbole. À ce propos, les murs, de gros blocs infranchissables érigés par l'armée pour éviter la fuite des manifestants sur plusieurs des 7 voies d'accès de la place Tahir, ont entraîné une perte de gains substantielle pour de nombreuses boulangeries, car leurs clients, des enseignes situées sur ces avenues, n'attirent plus aucun badaud. Ils obligent aussi les agaletti à de nombreux détours, augmentant ainsi leurs efforts titanesques et leur temps de livraison. Archaïque par la dureté du métier, optimal pour son délai de livraison, avant-gardiste pour son respect de l'environnement, la profession d'agaletti devrait se perpétuer, même si aujourd'hui elle se voit partiellement concurrencée par les livreurs en Vespa ou en pick-up. Père de 2 jeunes enfants, Amada s'imagine exercer son activité jusqu'à l'âge de 50 ans, à la recherche éperdue de son centre de gravité.
Mine de rien, ça fait peur les agaletti. Hein. Je t'avoue que je serais pas rassuré dans le trafic.
J'ai mais
pas
surtout si... avec 60 kilos de pain sur la tête.
Quoi. Ouais. Je sais pas s'il y a des chiffres, les blessures et tout ça, si ça vit très longtemps un agaletti. Enfin, moi, je les trouve très courageux. Et la pauvreté, ça nous fait quand même faire des choses ouais. qui sont un peu effrayantes.
Eric, j'aimerais revenir à Saint-Vélotin, dont tu parlais de sa canonisation. Pour être canonisé, il faut avoir fait des miracles.
Oui, c'est vrai, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Vélotin ?
Alors, Saint-Vélotin, on disait de lui qu'il pouvait réparer un vélo par simple imposition des mains. Incroyable. Oui, les freins se réglaient tout seuls, les chaînes qui étaient déraillées se remettaient tout seuls par simple imposition des mains. Oui, c'est pour ça que Jean-Paul II, il a invoqué ce cas de miracle hein, réalisé par Saint-Vélotin. C'est pour ça.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais une fois croisé un cyclo-voyageur lors d'un de mes voyages. Je l'ai trouvé un peu fou, mais il m'avait dit que un jour où il était en voyage, il avait les deux pneus crevés et il s'est mis à implorer Saint-Vélotin et ses pneus se sont regonflés en fait.
Tout seul.
Oh,
il est fort ce Saint-Vélotin.
Donc pensez-y la prochaine fois qu'il vous arrive une tuile à vélo, implorer, prier Saint-Vélotin.
La semaine prochaine, on aura une émission, ça faisait longtemps qu'on voulait faire une émission sur le climat. On aura Gary avec
nous. Il fait très moche en ce moment.
Ouais, mais alors, il fait quand même de plus en plus beau à cause du réchauffement climatique. Et Gary, de la grève du climat, viendra nous parler de ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est un peu mis entre parenthèses avec le Covid, mais il y a quand même des actions. Et on verra surtout ce que le vélo peut faire pour le climat. Allez les copains, on se quitte. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo !